Vite Famille.
Bonjour et bienvenue dans Vie de famille, présentée par Anne Lafontaine et Annick de Focal. Notre société est riche de technologies numériques variées qui font partie intégrante de nos vies, et cela dès l'enfance. Ce monde peut faire peur, peut fasciner ou être à notre service. Faut-il éduquer à cela? Y a-t-il des risques dans l'utilisation de ces outils? Impacte-t-il nos relations et notre identité? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Guillaume Doré. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez travaillé comme éducateur et formateur et vous avez fondé Login Prévention, dont les objectifs sont l'information et la prévention pour les bons usages d'Internet et l'usage des réseaux sociaux.
Tout à fait.
Vous intervenez en particulier dans les écoles, auprès d'élèves allant du CM1 jusqu'au lycée, je crois.
Tout à fait.
Et aussi auprès des parents, ce qui n'est pas facile. Alors Guillaume Doré, quel est votre but premier dans ce travail ?
Je pense que l'objectif premier donc, de Login Prévention aujourd'hui, c'est d'accompagner les parents et les enfants, donc ce que vous avez dit, aux bons usages d'Internet et des réseaux sociaux, peut-être aussi en réduisant un peu le décalage qu'il y a dans les connaissances, où on a des élèves qui ont l'impression de tout connaître et qui ne connaissent pas la base, donc évoluer en sécurité avec les outils, et les parents qui, je trouve aujourd'hui, sont débordés, sont dépassés en termes de connaissances et qui pourtant connaissent les fondamentaux, c'est-à-dire évoluer en toute sécurité, se projeter dans le futur, ce que ne fait pas un élève aujourd'hui.
Et sur quels aspects positifs est-ce que vous allez insister par rapport justement à ces moyens qu'on a aujourd'hui ?
C'est vrai que je ne diabolise pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur mode de communication, ça fait partie de leur mode d'information. Moi, mon objectif aujourd'hui, il est très simple, c'est leur dire que utiliser efficacement, intelligemment, avec un peu de raisonnement et de discernement, ces outils aujourd'hui sont pratiques, utiles, essentiels dans leur vie privée et dans leur future vie professionnelle aussi, hein. Beaucoup de recruteurs aujourd'hui se servent d'Internet. On est, je crois, à peu près à 85% des recruteurs qui vont sur Internet taper nom et prénom de leurs futurs salariés. Aujourd'hui, dire aux élèves que utiliser Internet de façon raisonnée, ça va leur servir. Utiliser Internet et les réseaux sociaux dans l'immédiateté, sans réflexion, sans recul sur les choses, on va souvent, hélas, au fiasco.
Mais pour des parents, par exemple, qui ne connaissent rien, est-ce qu'ils peuvent savoir que leurs enfants sont faciles à trouver sur Internet ?
C'est compliqué, puisque souvent même les enfants utilisent des pseudonymes. Du coup, retrouver par le nom et le prénom sur les moteurs de recherche, c'est pas simple. Je pense que la meilleure porte d'entrée, c'est aujourd'hui faire preuve d'ouverture, c'est-à-dire de laisser les enfants aussi communiquer, s'intéresser à ce qu'ils font. Même si on est dépassé, prendre quelques minutes de discussion, le midi, le soir.
Qu'ils montrent vraiment à ce moment-là aux parents ce qu'ils font, comment ils utilisent les outils.
Quitte à créer l'outil avec les parents. On sait qu'on a le droit de créer un réseau social comme Facebook à partir de l'âge de 13 ans. Pas avant, hein, je répète, c'est ce qu'on appelle l'âge de la responsabilité pénale. Du coup, je veux créer cet outil à 13 ans, je n'ai pas toutes les connaissances, pourquoi pas me faire aider par mon parent. Ensemble, c'est ce qu'on appelle donc de l'accompagnement. On n'est pas devant en opposition, on n'est pas derrière à pousser, on est à côté de son enfant et on l'accompagne aux bons usages.
Et alors, est-ce qu'il y a des aspects qui sont vraiment négatifs contre lesquels vous mettez en garde ?
Bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup de droits qui sont bafoués sur Internet. Je pense au droit à l'image, par exemple, où ils se prennent aujourd'hui sur les réseaux de type Instagram, Snapchat.
Alors là, ça, c'est de l'argot pour moi.
Oui.
De quoi est-ce que vous parlez ?
Alors, Snapchat, par exemple, c'est cette petite application qu'on télécharge sur les tablettes ou sur les smartphones qui permet de prendre des photos que l'on envoie à une personne et qui vont disparaître, entre guillemets, au bout de quelques secondes. Je dis bien entre guillemets, puisque les enfants...
Disparaître du message.
Alors, disparaître de la visibilité. C'est-à-dire que vous recevez la photo que je vous envoie, j'ai programmé 4 secondes, au bout de 4 secondes, elle est censée disparaître. Mais les élèves ont bien compris qu'il suffisait de faire des captures d'écran, ce qu'on appelle aussi des screenshots, pour pouvoir enregistrer et garder ces photos, et donc les republier sur d'autres réseaux sociaux.
Oui, à l'insu de celui qui les a envoyés ou de celui qui est sur la photo.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Et est-ce qu'il y a aussi des déviances un petit peu qui s'installent dans nos comportements ou dans nos relations parce que Internet ou bien la communication numérique ampute du direct, de la relation physique où on peut en fait saisir quelque chose de notre interlocuteur ?
Bien sûr. Enfin, moi, je constate surtout au niveau de tout ce qui est banalisation d'insultes, etc. A priori, aujourd'hui, ça devrait être normal de s'insulter, de se laisser insulter sur les réseaux sociaux. Dire à quelqu'un les yeux dans les yeux qu'il est comme ci ou comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que quand on est caché derrière un écran d'ordinateur. Moi, ce que j'essaie de faire comprendre aux élèves, c'est qu'on ne peut pas se laisser insulter, on ne peut pas laisser se banaliser aujourd'hui des propos, des comportements qui vont à l'insu de l'autre. Hein. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas toi-même recevoir. Et ces réseaux sociaux aujourd'hui permettent de se cacher un petit peu. Je pense à Skype notamment, par exemple, où ils se cachent derrière les chats, les discussions ou derrière la webcam pour se lâcher, comme on dit. Oui.
Et en fait, il n'y a plus aucune barrière de leur part. Comment est-ce que ça se construit petit à petit dans la personne ?
Alors,
c'est parce qu'il n'y a pas de punition, on pourrait dire, entre guillemets.
Il y a peu de connaissances et d'informations. Moi, j'essaie de convaincre aujourd'hui les établissements scolaires, notamment, qu'il faudrait créer une matière dédiée au numérique. Il y a très peu d'accompagnement. On parle dans certains établissements de ce qu'on appelle le B2I, qui est le brevet, entre guillemets, de l'Internet.
Qui
existe depuis longtemps, mais qui est faible. Qui est très très faible en termes de connaissances, savoir faire un copier-coller ou sauvegarder une donnée, c'est pas aujourd'hui ce qui est important pour les élèves. Moi, j'ai appelé ça dans mes conférences la citoyenneté numérique. Aujourd'hui, être un citoyen, on parle beaucoup de ces notions de laïcité, citoyenneté, pour moi, elles sont aussi importantes sur Internet. Internet n'est pas un endroit sans règles, sans lois.
Et les enfants ne peuvent connaître ces règles que grâce à des adultes qui leur transmettent. Oui. Donc si les parents ne sont pas au courant, qui peut le faire ?
Eh bien, des structures comme Login Prévention peut s'en occuper. Aujourd'hui, elles existent à travers la France. Alors, nous, on est principalement sur les Pays de la Loire et le Rhône-Alpes aujourd'hui. Néanmoins, je pense que le premier stade d'éducation, c'est les parents. Et j'ai beaucoup de mal à faire venir les parents à mes conférences. J'ai en moyenne entre 15 et 50 parents le soir pour des établissements qui font 600 à 2000 élèves. C'est complexe. C'est dommage.
Et pour quelles raisons ?
Je pense que les parents ont peur d'être dépassés, de ne pas s'y connaître, d'être, comme on dit, à la ramasse sur sur les connaissances de leurs adolescents. Et parce qu'aujourd'hui, ils sont sollicités pour beaucoup de choses.
Ouais,
les questions éducatives aujourd'hui, hélas, j'ai l'impression, ne font plus partie des priorités. On s'intéresse, quand il y a un voyage scolaire, il n'y a pas de problème sur les questions éducatives. Moi, je le vois dans la plupart des établissements où je passe, c'est complexe, c'est compliqué.
Alors que vous êtes appelé par les associations de parents d'élèves, sans doute.
Principalement, ce sont les appels, associations de parents d'élèves qui font appel à nous, ouais, tout à fait.
Est-ce que aussi on remarque qu'il y a chez les jeunes des problèmes par rapport aux connaissances ? Parce qu'Internet nous permet aujourd'hui d'accéder avec une grande facilité à de nombreuses connaissances, ou au moins de nombreux documents. Mais ce n'est pas comme ça qu'on intègre quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change?
Vous avez raison, on est beaucoup sur une génération zapping qui ne lit plus. Je vais prendre un exemple tout bête. Un élève aujourd'hui va vers la facilité. Je pense à des sites comme Wikipédia, qui sont très bien en soi. Une fois qu'on croise l'information, qu'on la vérifie, etc. Très bon site, pas de problème. Mais aujourd'hui, on est sur des élèves qu'il faut aller très vite. Je fais un exposé, j'ai pas le temps parce que faut que je passe du temps sur Facebook. En même temps, je suis sur mon téléphone et en même temps, je joue à mes jeux vidéo. Du coup, je vais faire un copier-coller et puis m'intéresser en profondeur aux choses. Je pense pareil pour les cours d'anglais, les moteurs de traduction. Aujourd'hui, c'est devenu la bible des adolescents. Les Google Traduction et les Wikipédia, ce sont les deux sites les plus utilisés par les ados dans le cadre de l'école.
Et est-ce que vous en parlez de ce genre de choses dans vos conférences?
Bien sûr,
alors
bien sûr, en disant qu'Internet est fait pour exécuter des ordres qu'on lui donne et pas réfléchir à notre place. Aujourd'hui, aller chercher des informations sur Wikipédia, pourquoi pas, mais en complémentarité de sites, de livres, de dictionnaires. Je leur montre à quoi correspond encore un dictionnaire, s'ils ont oublié, pour certains. Alors, je caricature un peu, mais pour certains, ils ont oublié. Et leur expliquer que Google Traduction, pour un mot, pourquoi pas. Par contre, pour une phrase, pour un texte, vaut mieux oublier.
Et dans les communications entre eux, on en parle beaucoup de ces communications, est-ce qu'on peut parler de communication authentique ou pas ?
Je pense qu'on fait une erreur. On dit aux jeunes, on a l'impression que les jeunes ne communiquent plus. Je pense que c'est faux. Je pense qu'ils communiquent différemment que nous, on a pu communiquer. Là, on voit, on est en face à face. Ils communiquent par petits messages, les textos, ce qu'on appelle les chats. Mais la communication reste... Ça reste un mode de relation à l'autre. Le côté authentique, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on appelle authentique ? On peut aussi discuter avec quelqu'un les yeux dans les yeux en n'écoutant pas ce que la personne nous dit. On voit, on se dit bonjour le matin, ça va, je dis non, ah bah super, je suis content pour toi. Est-ce qu'on est pourtant dans une vraie communication? Oui. Donc, ils communiquent différemment que nous, on a pu communiquer, de notre façon de communiquer, leur dire bien que les amis réels sont importants. On ne peut pas être que dans l'amitié virtuelle aujourd'hui. Avoir 350, 400, 500 amis sur Facebook aujourd'hui, ce n'est pas de l'amitié. Ce sont des connaissances, des contacts.
Oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment cette conscience?
Non. Non, pour eux, ils font partie, c'est ce qu'on appelle l'appartenance groupale, j'appartiens. Et souvent, on voit d'ailleurs que les élèves les plus isolés dans les écoles, dans les classes, sont ceux qui ont le plus d'amis.
Oui, ce qui est paradoxal.
Ce qui est tout à fait paradoxal. Voilà, mais ils appartiennent à quelque chose de grand. Voilà.
Est-ce que ça les rend plus forts, eux, par contre? Est-ce que ça a quand même un bénéfice pour personnalités plus faibles, par exemple, plus fragiles?
Non, je ne pense pas, parce qu'au contraire, ils vivent dans cet isolement numérique. Ils n'ont plus besoin des autres, encore moins des autres. Mmh. Ce qui nous renforce, c'est les rencontres, c'est l'autre. Aujourd'hui, avoir 350 amis, mais je n'en ai pas vu un seul, ce n'est pas me renforcer.
On retrouve la même chose par les jeux vidéo, un risque de désocialisation des jeunes?
Pousse à l'extrême, oui, bien sûr. Alors, encore une fois, moi, c'est comme les réseaux sociaux, je ne diabolise pas les jeux vidéo, il y en a bien qui sont tout à fait adaptés. Vous allez prendre celui qui fait un carton aujourd'hui qui s'appelle Minecraft, qui permet aussi aux enfants de jouer stratégiquement avec d'autres enfants. Pourquoi pas? Très bien. Attention, par contre, le fait de discuter avec des inconnus sur Internet, à tous les dangers que ça peut comporter.
Nous verrons cela tout à l'heure. C'est maintenant le moment de notre pause, pendant laquelle nous écoutons Taïv Razao de Séoul George, que nous propose Guillaume Doré, c'est vous qui l'avez choisi. Et nous verrons dans une deuxième partie comment accompagner les changements de comportement et d'environnement pour la génération montante.
Ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima é de partida, vou dar sequência na vida. De bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Sabe como é que é? Eu vou. Mas poderei voltar quando você quiser. Melhor.
Merci de nous rejoindre dans Vie de famille, où nous accueillons Guillaume Doré, ancien éducateur et formateur, fondateur de Login Prévention, dont les objectifs sont l'information et la prévention pour les bons usages d'Internet et des réseaux sociaux. Cette prévention s'adresse plus particulièrement aux élèves de CM1 jusqu'au lycée et aussi aux parents. Alors on a vu un petit peu dans quel monde on vivait aujourd'hui. Et Guillaume Doré, parlez-nous un peu des changements de comportement de la jeunesse en particulier. On est souvent inquiet quand on est parent, mais est-ce que c'est si important ?
Je pense que c'est important. On sera toujours inquiet. Un enfant prenait le scooter, on était inquiet. Il allait sortir sa première fois en boîte de nuit, on était inquiet. Aujourd'hui, il est important en tout cas de s'intéresser à ce qu'il fait, de s'intéresser au temps qu'il passe sur son smartphone, sur sa tablette. Et qu'est-ce qu'il fait dessus ? Voilà, comment il communique ? Qu'est-ce qu'il partage ? Afin de lui dire que ce qu'il fait aujourd'hui aura un impact demain. Les adolescents vivent, et c'est le principe de l'adolescence, dans l'instant présent. Ils n'ont pas cette projection dans un futur proche. C'est les objectifs des parents. Leur dire, tu vois, la photo que tu viens d'envoyer, si quelqu'un la partage aujourd'hui sur Facebook ou autre, elle est mise pour toute la vie. Quel impact elle a aujourd'hui ? Quel impact elle a quand tu chercheras un travail, par exemple ?
On parlait de pouvoir récupérer des photos qui avaient été mises sur Internet, justement, comme si on était quand même propriétaire de ces photos. Est-ce que ça va être possible ? Parce que je crois que c'était en cours.
Vous parlez de droit à l'oubli, par exemple ?
Ouais.
Moi, j'ai toujours tendance à dire que le droit à l'oubli n'existe pas sur Internet. Peu importe le message qu'on va envoyer aux enfants en leur disant « Attention, un employeur ne pourra pas se resservir de choses qu'il a trouvées sur Internet. On a le droit de faire des bêtises dans son adolescence. » Je pense que ce n'est pas le bon message qu'on envoie aux enfants. Parce que c'est en gros leur dire « Tu peux faire ce que tu veux, un patron ne pourra pas s'en servir. » Mais les patrons, ils s'en serviront. Ils diront pas je ne t'ai pas embauché pour telle et telle raison, parce que ça sera un critère de discrimination à l'embauche. Mais ils iront taper nom et prénom de la personne. Du coup, mieux vaut être dans la prévention, leur dire qu'une vidéo ou une photo postée sur Internet, elle est mise à vie. Le droit à l'oubli n'existe pas pour moi. Sur Internet, c'est très important.
Et qu'est-ce qu'il y a comme dérive aujourd'hui, particulièrement, justement, en particulier avec les photos de la part des jeunes, ou moins jeunes peut-être
hein. Oui, je vous dis, les élèves que je rencontre vont du primaire jusqu'au lycée, où je retrouve à peu près les mêmes problématiques dans les vestiaires de sport, dans les toilettes, dans les chambres, dans les salles de bain, tout ce qui touche... à l'intimité. Ils ont plus cette notion de, voilà, mon corps m'appartient. Aujourd'hui, c'est mon corps doit être exhibé. Alors attention, encore une fois, je ne veux pas stigmatiser tous les jeunes. Hein, ce sont encore certains comportements. Hélas, moi, je travaille tous les jours. Je rencontre environ entre 100 et 150 élèves par jour depuis 7 ans. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas ces problèmes-là avec quelques élèves. Et peu importe les âges. Voilà. Je fais confiance à mon petit ami, et mon petit ami me demande d'envoyer une photo de moi dénudée, c'est que pour lui. Sauf que aujourd'hui, c'est que pour lui. Il la récupère, et demain, qu'est-ce qu'il va en faire ?
Finalement, cette image qui peut être balancée, hein, pour parler vulgairement, sur les murs, partout, hein, pour tout le monde, elle n'a même pas de valeur personnelle. Il y a quelque chose qui s'est cassé quand même, là.
Je pense que, en effet, dans leur représentation de ce qu'est un garçon, ce qu'est une fille, je sais que moi, je travaille beaucoup aussi dans mes interventions sur l'influence que peut avoir la pornographie et certains médias. Je pense à certaines radios, je pense à la presse, je pense à la télé-réalité. Je pense que ça a changé complètement leur façon de se représenter la personne, l'humain en lui-même. Et aujourd'hui, il faut leur dire que c'est important que leur image, leur corps leur appartient, qu'on ne doit pas s'exhiber comme ça, qu'on doit se préserver parce que demain, on aura un métier, parce que demain, on aura des enfants. Et quelle image on va laisser, nous ? Quelle trace on va laisser ?
Vis-à-vis de soi-même, aussi.
Bien sûr. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, moi, je vois des jeunes filles, par exemple, qui font des choses plutôt dégradantes dans les vestiaires, dans les toilettes des établissements. Elles font ça en 5e, 4e. Ça va les suivre pendant toute leur adolescence jusqu'à l'âge de la jeune adulte.
Jusqu'au jour où elles rencontreront peut-être l'homme de leur vie et où elles auront des regrets par rapport à ce qu'elles ont fait.
Et qu'il deviendra longtemps l'homme de sa vie quand il voit ce qu'elles ont fait avec d'autres garçons, par exemple. Je parle des filles, je parle aussi des garçons, hein, c'est pareil, bien sûr.
On peut aussi parler peut-être de ce que peuvent faire les parents par rapport à la pornographie, à la violence sur les écrans.
Je pense qu'il faut retarder au maximum... les premières images pornographiques, la visibilité de premières images pornographiques, ce qui est complexe, avec notamment Internet, où justement, pour moi, Internet ne remplit pas son rôle de protéger les enfants. Alors, bien sûr...
Mais est-ce qu'on a besoin de les chercher, ces images, ou est-ce qu'elles vous sautent à la figure?
Non, je vais vous donner un exemple. Je faisais une conférence il n'y a pas très longtemps pour les élèves de 6e. Un élève de 6e m'a dit, j'avais un exposé à faire en biologie, en SVT, en sciences et vie de la Terre, et je devais chercher les arbres. Et j'ai tapé « charme ». En tapant charme, il voulait prendre des images, donc il était sur Google Images, pour ne pas le citer, et il est tombé sur quantité d'images pornographiques. Donc, bien sûr, il y a des élèves qui vont les chercher, une accessibilité très, trop facile. D'autres élèves, à contrario, tombent dessus parce que l'ordinateur n'est pas protégé, parce qu'il n'y a pas de contrôle parental, parce qu'un contrôle parental coûte cher aujourd'hui, est complexe à installer, mais est essentiel. Un contrôle parental payant va coûter entre 50 et 90 euros à l'achat, avec des licences qui se renouvellent du même montant à peu près tous les ans.
Oui, c'est pas si cher que ça par rapport à ce que certaines familles dépensent.
Tout à fait.
Régulièrement en matériel.
En fait, le numérique, c'est le seul poste de dépense qui augmente tous les ans, à contrario des loisirs, à contrario de l'alimentation ou des vêtements. Oui. Aujourd'hui, je pense que si on équipe son enfant avec une tablette à 600 euros, autant mettre 60, 80, 90 euros dans un contrôle parental qui, encore une fois, protégera ce qui se passe à la maison, mais pas forcément ce qui se passe à l'extérieur. D'où, moi je dis toujours le contrôle parental ne dédouane pas le rôle des parents.
Et est-ce que on voit justement une dérive et une influence néfaste de toutes ces images sur les jeunes par rapport à la violence aussi? Parce qu'on parle de pornographie, mais la violence, elle fait partie de notre société, on le voit tous les jours dans ce qui se passe autour de nous. Est-ce qu'il n'y a pas une banalisation de cette violence ou bien une indifférence?
Complètement, je vais parler moi vraiment de banalisation à travers notamment, je vous disais tout à l'heure, certaines radios qui le soir font le buzz autour de répondre à des questions d'auditeurs de façon très violente, considération de la femme par exemple. Sur certains jeux vidéo, je pense à un jeu qui s'appelle GTA par exemple, où on va devoir devenir un gangster et gérer un réseau de prostitution, torturer une personne. Et ces jeux-là, les jeunes y ont accès dès le primaire, alors qu'il y a des logos derrière, censés les protéger, qu'on appelle logo PEGI, P-E-G-I, PEGI 18, par exemple. Ce jeu-là est interdit, est conseillé à partir de 18 ans, pas interdit, hélas. Il y a une manne économique derrière assez forte, et du coup, en effet, ces jeux-là, certaines émissions, même de télé-réalité aujourd'hui, stigmatisent et banalisent des propos et des comportements d'hommes vers les femmes, de femmes vers les hommes, et de couples aussi. Aujourd'hui, on passe de l'un à l'autre. Où est le respect de l'individu? Qu'est-ce que l'amour aujourd'hui? Alors, c'est des questions un peu plus denses.
Oui, mais quand les jeunes sont dans cette situation, est-ce que on peut voir une évolution grâce à votre prévention? Par exemple, si vous voyez des sixièmes et que vous revoyez 2 ans après, en quatrième, ces mêmes élèves, est-ce que vous voyez vraiment une prise de conscience de leur part? Qui sont en train de se salir, qui sont en train de se transformer à leur insu aussi.
Ce serait utopique de ma part de dire que chaque élève qui passe par les conférences de guide prévention devient un citoyen numérique responsable. Ça serait totalement utopique. Non. Par contre, en effet, certains comportements évoluent. Les élèves que je vois en sixième et que je revois en quatrième viennent tous me voir. « Ah, monsieur, depuis que vous êtes venu, je fais attention. Hein, maintenant, j'ai supprimé mon compte Facebook ou alors j'ai paramétré mon compte. Ou alors sur Snap, je fais attention. »
Snap, qu'est-ce que c'est?
Snapchat. Ah. Hein, les photos, vous savez, qui disparaissent entre guillemets. Ouais. En même temps, cette intervention, moi, je la fais souvent parce qu'elles ont un coût, sur un niveau. C'est très peu. C'est ce que j'explique. Pour moi, peu importe qui fait ce type d'intervention, elle devrait être faite du primaire jusqu'à la fac, à tous les niveaux et tous les ans. Ça devrait être une matière scolaire obligatoire. Le numérique devrait devenir une matière scolaire obligatoire.
Ça ne serait pas une matière qui prendrait plusieurs semaines. Ça peut être quelques interventions.
Ça peut être quelques interventions. Ça peut être je pense qu'en 2 fois ou 3 fois 2 heures dans une année, on arrive à faire le tour, en tout cas dès le début d'année principalement. Après, on revient en milieu et fin d'année pour l'évolution des comportements. Là, moi, je suis plutôt sur un aspect théorique des choses, même si évidemment les interventions sont très interactives. Mais après, il pourrait y avoir aussi une pratique. Hein. On sait que les élèves, avec la nouvelle réforme du numérique, vont être équipés en tablette, par exemple. Dans les écoles, dès les écoles primaires. Comment on configure un compte, comment on s'en occupe, ça pourrait faire partie aujourd'hui de cette matière numérique. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais...
Et est-ce qu'on pourrait envisager un permis de conduire ou d'agir avec Internet, avec le numérique ?
Il existe déjà, mais c'est un permis...
En France ?
Oui. Alors, il existe déjà pour les petits, hein, c'est un permis un peu symbolique, mais il existe déjà. On pourrait aller vers, en effet, hein, ça pourrait être une idée aujourd'hui. Alors, on enlève les points par rapport à quoi ? Une photo qu'on envoie, en même temps, il faut la voir, il faut...
Il n'y a pas toujours eu des points à enlever dans les permis.
C'est vrai. Mais est-ce qu'on supprimerait Internet si on l'utilise mal ? Aujourd'hui, on demande aux élèves de se servir d'Internet à l'école, de s'en servir pour les devoirs.
Oui, mais ça serait déjà un permis, c'est déjà avoir des capacités d'action et d'utilisation. Ça serait déjà ça.
Du coup, voir le permis en effet comme toute la phase d'apprentissage.
Voilà.
Oui, tout à fait. Avec, je ne sais pas, si on voit des élèves ne serait-ce que 4 heures par année du primaire, ce qui se fait dans beaucoup de pays, hein, au Canada, dans les pays scandinaves, il y a une matière scolaire dédiée au numérique. Et encore une fois, je ne parle pas du B2I. Parce qu'on me dit souvent, bah oui, mais on a le B2I. Mmh. Non. On est sur une matière vraiment déclinable.
Eh bien, avec toutes ces observations, ces remarques et aussi ces conseils que vous nous avez donnés, je crois qu'il y en a un qui reste primordial, c'est le conseil aux parents de s'informer, de rester proches et d'agir avec leurs enfants. Nous vous remercions beaucoup, Guillaume Doré, pour votre éclairage. Et pour tout renseignement supplémentaire, pour les parents intéressés, vous pouvez regarder à l'adresse www.login-prévention.fr. Vous tapez Guillaume Doré sur Internet, c'est facile de trouver les gens, on l'a vu. Et vous, chers auditeurs, vous pouvez nous laisser vos messages sur le répondeur au 09 50 788 228. Au revoir et à la semaine prochaine.